Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, l'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique, découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans ce nouvel épisode, j'enregistre pour la première fois de l'étranger, puisque je viens de déménager à Ho Chi Minh-ville, au Vietnam, avec mon équipe. Alors pour ce premier épisode de la rentrée, j'ai avec moi Antoine Auclair de masterblog.fr. Antoine, c'est un petit gars qui monte du blogging. C'est quelqu'un qui teste des stratégies, qui teste des nouvelles idées, qui prend des risques. Et dans cet épisode, on va en particulier parler de comment une de ses vidéos s'est retrouvée à faire 500 000 vues sur YouTube, alors que ses vidéos habituellement font entre 1000 et 5000 vues. Vous allez découvrir dans cet épisode comment c'est arrivé, et surtout vous allez découvrir si ces résultats en valaient la peine d'un point de vue business et ce que Antoine peut vous recommander pour essayer de répliquer ce type de résultats sur vos propres vidéos. Alors sans plus de transition, je vous présente Antoine Auclair. Salut Antoine et bienvenue sur le podcast.
Salut.
Est-ce que tu peux rapidement nous faire un résumé en une minute de qui tu es et de ce que tu fais ?
Alors, très bien Stan, j'y vais. Alors, je suis donc Antoine Auclair, je suis blogueur sur masterblog.fr depuis maintenant 2 ans. Je suis blogueur en web marketing en fait, donc je traite tout ce qui est des sujets que tu connais bien, donc gagner du trafic, augmenter son taux de conversion et augmenter ses ventes, en gros. Hein. Et donc cette année, en fait, je me lance à temps plein, puisqu'avant j'étais étudiant et je faisais ça en plus. Cette année, je me lance à temps plein dans cette activité de blogueur sur Masterblog. Et donc, pour moi, c'est une nouvelle aventure.
Un truc que je trouve intéressant chez toi, c'est que tu as l'air de bouger vachement vite, de faire vachement de choses, de faire pas mal d'expériences. T'as quel âge en ce moment ?
Je viens tout juste d'avoir 21 ans.
Ok, donc, et là, tu te lances à plein temps. Qu'est-ce qui, à ton avis, te différencie du reste des mecs de 21 ans qui sont autour de toi ?
Déjà, il y en a d'autres qui sont comme moi. Hein. Je ne suis pas non plus un prodige, un génie. Hein. Je me place pas du tout dans cette catégorie. C'est juste une question de style de vie et de qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. C'est juste que moi, en fait, il y a des gens qui ont peur de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont peur de se lancer. Il y a des gens qui ont peur de ça. Moi, c'est pas ça qui me fait peur. Moi, j'ai pas peur de manquer d'argent. J'ai pas peur de galérer. J'ai pas peur d'avoir des difficultés. Ce qui me fait peur, c'est d'être coincé dans un système dans lequel je peux pas sortir. Tu vois, ce qui me fait peur, c'est la dépendance. Et donc, cette dépendance, pour moi, elle s'illustre par le boulot de salarié, tout simplement. Elle s'illustre par n'importe quel travail en tant que salarié dans une boîte. Et en fait, j'ai fait trois stages donc pendant mes études là en école de commerce. J'ai fait 3 ans, j'ai un bachelor. J'ai fait 3 stages. Les 3 ont été plus ou moins réussis, mais dans tous les cas, je savais que voilà, je voulais pas continuer, que déjà 3 mois c'était largement suffisant et que jamais je pourrais garder un boulot plus d'un an, simplement parce que ça me fait peur en fait de rester dépendant, de rester coincé là-dedans. Et donc, c'est pour ça que mon seul objectif, c'est d'être autonome, d'être indépendant, pas forcément de créer une énorme boîte, pas forcément de gagner des milliers de cents. Mon objectif premier, c'est d'être indépendant, et c'est pour ça que je me lance sur Internet. Et donc, je pense pas que ce soit forcément une question d'âge ou quoi que ce soit, je pense surtout une question de mentalité et de qu'est-ce qu'on a envie dans la vie. Et donc, moi, c'est cette peur d'être dépendant qui me pousse à faire des choses, à me bouger, comme tu dis, et à me lancer en autonome sur le web, tout simplement.
C'est marrant que tu frames ça en disant c'est une question de peur, parce qu'effectivement, je pense que les gens sont soit retenus en arrière par leur peur, soit ils sont motivés par cette peur en cherchant quelque chose. Et une des notions par rapport à ça que j'ai découvert récemment, que j'étais très fasciné, il y a un mec qui s'appelle Taylor Pearson qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle The End of Jobs, qui n'existe en ce moment qu'en anglais. Et grosso modo, ce mec a écrit un bouquin pour te dire que en 2015, la sécurité, c'est d'être entrepreneur. Et il a un bouquin entier qui argumente que avoir un job dans une grande boîte, c'est dangereux. Et il a des arguments qui sont assez forts. Il t'explique que t'as un job dans une grande boîte, demain Tu te fais virer, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler ou prédire parce qu'il y a des forces qui sont là, qui sont au-delà de ton contrôle. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu rebondis? Ce que j'adore chez les gens qui sont des entrepreneurs, qui testent plein de choses, etc., c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure en te disant que tu te bougeais, etc., c'est qu'ils ont cette flexibilité de se dire « peut-être que je vais me prendre des coups, mais je saurai toujours rebondir. Je ne cherche pas à blinder mon truc, je ne cherche pas à me dire que je suis dans un cocon, je cherche à me dire que je construis les compétences pour rebondir. »
Ouais, c'est ça. Et puis tu dis voilà, si tu fais une erreur, c'est ta responsabilité. Si tu as un succès, c'est ta responsabilité. Et c'est pas celle de la boîte. Et t'essayes pas de remettre la faute sur les autres. Ça, c'est important aussi. Et juste pour revenir sur ce bouquin The End of Jobs que j'ai pas lu mais que je lirai sûrement maintenant que t'en parles, puisque ça m'intéresse énormément justement cette espèce de modification de la société. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe ça aussi, notamment avec voilà les services comme Uber et tout. Tu vois, tout le monde a peur de cette fameuse ubérisation de la société. Mais en fait, c'est peut-être juste quelque chose de naturel et d'irrémédiable, voilà, parce que les mecs qui bossent en Uber, c'est plus ou moins, je crois, des auto-entrepreneurs qui travaillent en freelance quelque part pour l'entreprise Uber. Et alors, ça fait peur à plein de gens parce que voilà, il n'y a pas la sécurité de l'emploi, tout ça. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ce genre de boulot, on peut trouver un travail en deux jours et n'importe où dans le monde. Et c'est peut-être ça, finalement, l'avenir, tu vois. Et même si, on n'est plus programmé, on n'est plus fait pour avoir le même travail à vie et avoir le même travail que son père. Et enfin, voilà, tu vois, ça, c'est super vieux quand même comme théorie. Et peut-être que ça, c'est en train de se terminer et que voilà, on arrive dans un monde beaucoup plus flexible où on change de job facilement, où on trouve un job facilement, où on travaille pour d'autres gens, mais en tant qu'indépendant. Et c'est peut-être finalement pas si mal que ça. Et c'est peut-être on sera peut-être plus tranquille et on se sentira peut-être plus en sécurité en sachant qu'on peut trouver un job, qu'on peut trouver des clients facilement. Alors qu'aujourd'hui, quand on est au chômage, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de trouver un CDI, quoi. C'est ce que je me dis.
Là, tu touches à une question, puisque j'ai envie d'être un peu controversial. Je voudrais rentrer dans la question avec toi des études très rapidement. Parce que là, tu as fait ta licence, donc tu avais l'opportunité de continuer jusqu'au master. Tu as décidé de ne pas le faire. Pourquoi est-ce que tu vas aller te galérer à bosser sur Internet quand tu avais 2 ans tranquille à faire la fête, à boire des bières avec tes potes? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire que ces 2 ans-là, tu pouvais te permettre de ne pas les faire? Sachant que, pour reformuler ma question, parce que c'est pas une reproche que tu joues, moi, j'ai fait la même chose.
D'accord, t'as arrêté la licence.
Oui, essentiellement. J'ai pas été jusqu'au bout. Au bout d'un moment, j'avais décidé que j'en avais eu assez, que j'avais appris ce que j'avais à apprendre, et que je montais mon truc de mon côté, que de toute façon, je faisais suffisamment d'argent pour vivre, et voilà, que j'allais monter mon business, et que c'était la voie, là où j'allais apprendre le plus, c'était en montant du business.
Et c'était à combien de temps, ça?
C'était l'an dernier.
Et là, tu regrettes pas?
Non, pas du tout. Moi, de toute façon, j'ai eu un pied dehors assez rapidement où je me suis dit, j'ai envie de faire mon propre truc, j'ai envie de monter mon business. Si tu veux, je suis resté en école tant que j'avais pas encore suffisamment foi en moi pour me dire que j'allais réussir par moi-même. À partir du jour où je me suis dit, tant que je reste sain de corps et d'esprit, je vais réussir dans l'entrepreneuriat parce que j'ai des systèmes qui tournent, j'ai de l'argent qui tourne, j'ai des contacts, etc. Et que socialement, j'ai une carrière qui se monte là. Pour moi, c'est devenu, si tu veux, irresponsable de continuer à m'asseoir dans une salle de classe parce que je bossais pas sur mon business. Tu vois, j'avais reframé le truc où mon business c'était la voie vers l'avant, c'était ma carrière et c'était une perte de temps et c'était irresponsable, tu vois. C'était facile pour moi d'aller en cours, mais je sentais que c'était pas mon objectif, tu vois.
Je comprends très bien. Bah, c'est un peu pareil pour moi, si tu veux. Enfin, bon, déjà une petite rectification. C'est pas une licence, c'est un bachelor que j'ai. Mais bon, ça, on s'en fout. Donc c'est bien sur 3 ans. Et en fait, officiellement, j'ai pas définitivement arrêté mes études. J'ai fait une année de césure. Donc là, cette année, c'est une année de pause en fait. Et je me suis réinscrit à mon école pour l'année prochaine. Donc théoriquement, je reviens l'année prochaine, j'ai déjà réservé ma place. Donc j'ai pas de voilà, si tu veux, j'ai surveillé mes arrières, tu vois. Donc si ça foire, si mon truc marche pas et que je décide que il faut que je continue à me former et que un diplôme c'est quand même important, je reviens en école de commerce. En fait, si tu veux, moi j'ai fait j'ai fait une école voilà parce que je me sentais pas de me lancer directement, en plus à l'époque j'avais rien du tout. Et puis voilà, enfin voilà, il faut avoir un diplôme quand même dans la vie. Bon, c'est ce qu'on entend partout et c'est vrai quand même. Et puis ça permet de te conditionner, de voir un peu voilà ce que c'est qu'être étudiant, tout ça, donc c'est important. Et puis Et puis en fait, c'est aussi, voilà, j'avais quand même la pression. Ma mère, elle me disait, si t'as pas de diplôme, tu pourras jamais avoir un boulot correct autre qu'entrepreneur. Et c'est vrai que je me disais qu'entrepreneur, c'était pas forcément la voie la plus facile et que peut-être qu'un jour, j'aurai besoin d'un boulot. Mais c'est vrai que plus le temps a passé dans mon école de commerce, déjà, j'ai pas appris beaucoup de choses qui m'ont été vraiment utiles pour ce que j'ai envie de faire en tant qu'entrepreneur. Je sais que j'ai vraiment envie d'être entrepreneur. Et en plus, j'ai appris qu'être entrepreneur, être indépendant en tout cas, c'est pas si difficile que ça. Je pense que c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, évidemment, c'est de créer une grosse boîte, de devenir riche et tout, ça je suis bien d'accord. Mais être indépendant en soi, c'est pas si compliqué que ça. Et j'en ai tellement envie que je pense que plus jamais de ma vie, je travaillerai pour une entreprise en tant que salarié. Après, je dis pas qu'il faut pas faire d'études. Je pense que ça dépend encore une fois des gens. Et puis c'est bien quand même d'en avoir fait un minimum. On apprend quand même des choses, tu vois.
Moi, j'irais dire qu'il y a des gens, je pense, qui aujourd'hui rentrent en école de commerce ou rentrent à la fac, qui rentrent parce qu'ils ont eu la pression, on leur a dit que c'était la seule voie à faire et que s'ils le faisaient pas, ils pourraient jamais réussir leur vie. Et ce n'est pas vrai.
Oui, c'est sûr.
Ces gars-là réussiraient mieux en se démerdant par eux-mêmes. Et moi, j'en connais. Et je pense que c'est utile. Après, tout le monde ne va pas aller monter un blog, faire son business, etc. Et pour certaines personnes, c'est la bonne voie. Mais on est arrivé dans un stade où on dit que c'est, voilà. Moi, j'étais dans un système de pression extrêmement forte à partir du collège où on m'a dit si tu veux réussir dans la vie, tu dois faire ça. Il y a une chose que les gens font pour réussir. Et ça, c'est dommage.
C'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas si mauvais aussi parce que pendant tes études, t'as quand même pas mal de liberté. Enfin, moi, je sais qu'en école de commerce, on n'est pas surchargé de travail, tu vois, ça qui est bien. Et donc, ça te permet aussi de réfléchir à ton projet, de mûrir ton projet, de voir un peu ce qui marche, ce qui marche pas, de lire des bouquins, de rencontrer des gens. Moi, je sais que j'ai utilisé le temps libre que j'ai eu pendant ces années pour mûrir mon projet. Tu vois, si je m'étais lancé directement après le bac à 18 ans, je pense que j'aurais fait peut-être un peu n'importe quoi. Tu vois, bon, peut-être qu'aujourd'hui, je serais plus avancé, mais je pense pas que ça a été des années perdues. Et j'ai quand même appris bien sûr des choses dans mon école de commerce. Après, le problème, et là je suis un peu d'accord avec toi, c'est que les écoles et les universités, ça formate un peu l'esprit. Et c'est vrai que quand tu veux être entrepreneur et quand tu veux vraiment casser les choses et voilà, être un entrepreneur moderne ou un entrepreneur sur le web où ça change très vite, c'est pas forcément une bonne chose d'avoir l'esprit formaté par ce qu'on apprend par exemple dans une école de commerce. Et c'est bien aussi de se former par d'autres moyens comme par exemple les bouquins ou des trucs, voilà, des trucs beaucoup plus récents, des trucs qui évoluent très vite. Voilà, donc je suis à la fois pour et contre, mais je dis surtout pas ne faites pas d'études. Moi, je pense que ça va pas te gâcher ta vie de faire des études, tu vois.
Du coup, tu te lances ce défi sur un an. Comment est-ce que tu vas mesurer ton succès? Comment est-ce que tu sais au bout d'un an si tu as réussi? Est-ce que tu as des chiffres que tu regardes? Est-ce que tu as des objectifs précis?
Bah, je me suis mis des objectifs en termes de chiffre d'affaires, tout simplement. Je me suis mis, je ne sais plus exactement, parce que j'ai écrit ça dans un article que j'ai publié il y a genre 6 mois, mais ça doit être de l'ordre de 1 000 euros par mois les premiers mois, puis 1 500 euros à partir de janvier, c'était ça mes objectifs. Et ensuite, si ça peut continuer à augmenter, tant mieux. Après, si tu veux, j'ai pas d'objectif très très précis en termes de chiffre d'affaires. Mon objectif, c'est surtout de pouvoir en vivre. En même temps, j'ai un emprunt à rembourser, donc pouvoir subvenir à tous mes besoins. Donc en vivre, rembourser mon emprunt et pouvoir à la fin de l'année être capable de voyager et continuer à gagner ses revenus. Et si je suis capable vraiment d'y aller relativement facilement, de générer suffisamment de revenus pour pouvoir faire ce que j'ai envie, j'aurais considéré quelque part que ce projet aurait été un succès.
Donc je voudrais changer un peu de vitesse avec toi pour parler d'un sujet que j'ai découvert sur ton blog et qui m'a vraiment fasciné, c'est ta fameuse vidéo virale sur l'arnaque Snapchat. Donc pour résumer un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, donc tu avais créé cette vidéo qui est devenue virale et qui a atteint, à ce stade-là, je viens d'aller voir, presque 500 000 vues au moment où on enregistre cette interview. Ce qui est d'autant plus surprenant que ta deuxième vidéo la plus vue est à 5 700 vues. Donc toi, comment est-ce que tu as expliqué le fait que cette vidéo sur l'arnaque Snapchat a été vue plus de 100 fois plus que ta deuxième vidéo?
Ouais, bah alors c'est très intéressant cette histoire parce que bon, la vidéo en elle-même m'a rien rapporté d'utile pour mon business, c'est-à-dire que voilà, j'ai gagné 5000 abonnés sur YouTube, mais évidemment, ils sont pas du tout intéressés par ce que je fais et maintenant quand je sors une vidéo, je me prends des insultes parce que les mecs sont pas du tout
Tu parles plus de Snapchat, qu'est-ce qui se passe Antoine?
Exactement. Je suis obligé de supprimer les commentaires maintenant, ça m'emmerde. Mais bon, c'est pas grave parce que ça m'a fait une petite leçon de web marketing, j'ai appris plein de trucs grâce à cette vidéo. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que grâce à ce genre de plateforme comme YouTube, tu peux vraiment créer un contenu viral sans avoir bossé pendant des années, sans avoir créé une vidéo par jour pendant 3 ans. Voilà, moi, à la base, je devais avoir même pas une dizaine de vidéos. Je devais totaliser au total 10 000 ou 15 000 vues sur toute la chaîne. Et donc, j'avais aucune prédisposition à faire un gros, une grosse vidéo comme ça qui fasse beaucoup de vues. En fait, c'était presque par hasard, parce que j'étais, le soir où je l'ai fait, j'étais en train de glander sur Facebook, et j'ai un ami qui partage une vidéo qui tourne sur Facebook. Je vois que la vidéo a genre 300, 400 000 vues, et je regarde, et en fait, c'est une petite arnaque comme on en voit plein. C'est des mecs qui disent, oui, vous pouvez pirater le compte Snapchat de vos amis. Pour ça, il suffit d'envoyer, de vous inscrire à ce site, d'envoyer un SMS machin surtaxé à 15 euros par mois, et ensuite, hop, vous aurez cet accès. Enfin, pour moi, c'est évident que c'était une arnaque. Ça m'a énervé qu'il y ait autant de gens qui like ça, qui partagent ça et tout. Et donc, du coup, j'ai fait une vidéo, et puis ensuite, en la faisant, je me suis dit, elle va servir à rien cette vidéo si je la laisse comme ça. Je me suis dit, en la faisant, je vais essayer d'en faire quelque chose, je vais essayer d'utiliser les leviers qu'on voit un peu partout pour faire des vidéos virales. Donc, tu sais, j'ai fait le coup classique de mettre une miniature avec un décolleté, de mettre en gros arnaque Snapchat, de mettre un titre super accrocheur en mettant arnaque Snapchat en énorme, en sachant que Snapchat, normalement, c'est un truc qui fait un peu le buzz, beaucoup de monde en parle. Et en mettant, vous êtes-vous fait avoir, je crois, tu vois, donc forcément, ça attise la curiosité. Après, dans le...
Excellent titre.
J'ai trouvé assez vite en plus, hein, j'ai pas trop réfléchi. Et donc, j'ai fait la vidéo assez vite aussi, tu vois, en une demi-heure, une heure, en expliquant simplement, clairement, pourquoi c'était une arnaque. Et après, j'ai fait une petite leçon en expliquant comment on pouvait détecter facilement une arnaque et comment se méfier des arnaques. Et je l'ai publié, et ensuite, j'ai essayé de la faire tourner un peu sur Facebook en la publiant justement en commentaire de cette vidéo originale d'arnaque. Donc, la vidéo a pas mal été reprise, et j'ai fait assez vite 10 000, 15 000 vues. Donc, j'étais content, je me suis dit, bon, c'est déjà pas mal. C'était pas le gros buzz que je voulais, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, du coup, j'ai laissé tomber. Et quelques semaines après, genre 2-3 semaines après, je vois le truc qui s'affole. Et là, je regarde, il y avait genre 50 000 vues. Je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé?
Et tu sais quel a été le déclic à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que 2-3 semaines après, ça repart?
Je sais pas exactement quel a été le déclic, mais je sais en fait d'où viennent les visiteurs. C'est que YouTube s'est mis à la mettre en vidéo recommandée. Tu sais, t'as deux onglets sur YouTube. T'as, je sais pas quoi, mes vidéos et t'as recommandations pour vous. Et en fait, cette vidéo, enfin voilà, les trois quarts ou même plus de mon trafic venaient des recommandations de vidéos. Donc YouTube, je pense, a dû faire le ratio du taux de gens qui avaient liké cette vidéo. Le taux de like était très très bon. J'ai un très très bon ratio. En fait, enfin, je sais pas pourquoi les gens qui ont vu cette vidéo ont dû trouver que voilà, j'avais bien dénoncé l'arnaque et voilà, qu'il y avait un vrai bénéfice. Du coup, j'ai eu beaucoup de pouces bleus. Donc très bon taux de like, et donc je pense que ce ratio a plu à YouTube, qui a mis cette vidéo en avant et qui m'a rapporté plusieurs centaines de milliers de vues et 5000 abonnés. Et en termes de... Alors j'avais quand même mis la publicité YouTube, alors j'ai mis un peu tard, j'ai mis à partir de 100 000 ou 150 000 vues, mais ça m'a quand même rapporté $500 de publicité AdSense, ce qui finalement n'est pas grand-chose par rapport au nombre de vues, ce qui prouve que c'est quand même très très difficile de faire de l'argent avec YouTube simplement en utilisant la publicité AdSense. C'était mieux que rien. Et puis ça m'a permis en fait surtout de faire une étude de cas web marketing, d'en parler sur mon blog, de faire un article là-dessus. Donc j'étais content, voilà.
Et à quel niveau est-ce que tu penses que c'est réplicable ce truc-là? Est-ce que tu penses que tu serais capable de refaire une vidéo en utilisant les mêmes leviers de la rente virale, où il y a une part d'aléatoire, une part de mystère des algorithmes et des gens et des partages qui jouent beaucoup?
Alors, je pense qu'il y a une grosse, grosse part de mystère, comme tu dis, voilà, de... pas de hasard, mais quand même de choses qui sont vraiment difficiles à prévoir. Si j'essaie d'analyser quand même le truc, tu prends un sujet qui fait beaucoup parler, qui fait polémique, tu sais, Snapchat, vraiment, en ce moment, les jeunes, ils sont à fond là-dessus. Enfin, je dis les jeunes, mais moi, j'ai arrêté d'être dessus parce que c'était un peu addictif. Mais voilà, on était tous dessus, tout le monde en parle, ça fait polémique. Donc, c'est un truc qui intéresse tout le monde. Qui intéresse en tout cas tous les jeunes. En plus, je dénonce une arnaque en quelque sorte, et je fais une vidéo un peu instructive à la fin. Donc, il y a un bénéfice. Pour moi, les deux ingrédients, c'est le bénéfice et la curiosité. Donc, d'abord, c'est la curiosité. Donc, tu vas tout faire pour que les gens cliquent sur la vidéo. Donc, voilà, un titre comme ça, super accrocheur, en mettant « Vous êtes-vous fait avoir ?» Comme ça, les gens ont envie de savoir, ne serait-ce que pour savoir s'ils sont victimes ou pas. Un titre super accrocheur, une miniature qui fait du clic. Et derrière, dans la vidéo, du bénéfice. Donc, voilà, une vidéo plutôt... Tu essaies de faire une vidéo assez instructive, assez pédagogique, qui va plaire aux gens pour avoir un bon ratio like. Et voilà, après, je pense pas qu'il y ait vraiment de secret, je pense pas qu'il y ait une méthode miracle. Après, il faut faire confiance, voilà, il faut en faire plusieurs comme ça. Et, et ça peut marcher, quoi. Un sujet qui plaît à tout le monde, un thème qui plaît à tout le monde, la curiosité pour que les gens cliquent et le bénéfice une fois que les gens ont cliqué. À mon avis, c'est ça.
Est-ce que tu comptes essayer de refaire le même coup, mais cette fois-ci avec un sujet plus proche du business qui pourrait te rapporter du trafic et des abonnés qui seront plus alignés avec ce que tu proposes derrière?
Ouais, bah c'est la vraie question, ça. C'est la grande question. C'est à ça que je réfléchis depuis un moment. Parce que je vais pas en faire 10 dès comme ça, ça me sert vraiment à rien. Forcément, c'était juste pour faire un coup, pour faire un test. Alors, un tel nombre de vues, ça m'étonnerait. Enfin, je pense que c'est possible, mais c'est assez difficile parce que forcément, c'est un sujet, le web marketing, c'est un sujet qui intéresse moins de monde, qui est beaucoup moins grand public. L'entrepreneuriat, tout ça, bon, c'est quand même vraiment pas facile, tu vois, d'atteindre un très très gros marché avec ça. Mais je pense quand même qu'il y a moyen de, voilà, si tu trouves la bonne approche, tu trouves un thème qui plaît, enfin. Il y a moyen de croiser ça avec un thème qui plaît. Alors, je vais faire un peu de pub, mais je connais un gars qui s'appelle Romain Collignon, je ne sais pas si tu le connais, qui a le décodeur du non-verbal. Moi, j'adore ses vidéos YouTube parce qu'en fait, il décode des exemples, des passages de séries télé ou des choses qui passent aux infos, BFM TV et tout. Et il va te montrer, voilà, dans ce discours ou dans ce passage, où est-ce qu'il y a des moments où on voit la personne utiliser son langage non-verbal, volontairement ou non. Et ces vidéos sont passionnantes, donc il y a énormément de bénéfices dedans parce qu'on apprend plein de trucs. En plus, il arrive à convertir derrière parce que hop, il met voilà pour avoir la vidéo 2, pour avoir le pack, inscrivez votre mail. Enfin voilà, c'est un vrai webmarketeur. Et il arrive à surfer sur des sujets qui intéressent tout le monde. Il a fait vraiment des buzz avec ses vidéos. Il a fait vidéo sur François Hollande ou je sais pas quoi. Genre regardez comment François Hollande, regardez comment son corps parle à sa place et voilà. Enfin il a réussi à prendre des sujets d'actualité qui a intéressé tout le monde et à tourner ça pour que les gens ensuite s'intéressent à ce qu'il enseigne, c'est-à-dire le non-verbal. Et ça, c'est très très fort. Donc voilà, je fais vraiment de la pub gratuite si vous voulez voir un peu des exemples de vidéos qui marchent bien.
Et on mettra les liens vers les vidéos que tu viens de mentionner dans l'article de cet épisode.
Donc chaîne YouTube décodeur du non-verbal, je pense qu'il a vraiment tout compris pour faire des vidéos virales. Voilà, tout simplement.
Cool. Bah écoute, on mettra les liens vers tout ça. Une autre, donc tu parlais de plateforme sur YouTube. Une chose que j'ai vue avec toi, c'est que tu bosses pas mal sur Medium.
Ouais.
Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton approche là-dessus? Pourquoi est-ce que tu écris sur Medium plutôt que... Enfin, d'abord, qu'est-ce qu'est Medium? Parce que je suis pas sûr que tout le monde sache. Pourquoi est-ce que tu écris sur Medium plutôt que sur ton propre blog? Et toi, quel futur est-ce que tu vois à ce genre de plateforme?
Ouais, bah alors c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en effet en ce moment parce qu'il y a un peu un espèce de flottement, il y en a qui disent oui c'est la fin des blogs ou bien le blog marche moins bien et tout, c'est vrai. En fait Medium c'est vrai que c'est pas encore très connu en France mais aux États-Unis c'est quand même beaucoup plus développé, c'est une sorte de plateforme de blog, alors si tu veux c'est entre la plateforme de blog à la WordPress et le réseau social. C'est-à-dire qu'on peut publier dessus, on peut créer alors ce qu'ils appellent une publication, donc ça va être un blog en fait, on peut publier sous son nom, et ensuite il y a tout un point de vue social, c'est-à-dire que le truc peut être liké, peut être recommandé par les membres, voilà il y a un système de commentaires, enfin tout est intégré comme ce serait sur Facebook si tu veux, sauf que c'est des vrais articles, et ça met vraiment en valeur la qualité, c'est très agréable d'écrire dessus, c'est une interface... que les Anglais appellent what you see is what you get, c'est-à-dire que quand t'écris, tu vois directement la mise en forme de l'article telle quelle quand elle sera publiée. Donc ça, c'est très agréable vraiment d'écrire dessus, ça fait des très beaux articles et ça donne envie d'écrire des choses assez inspirantes. Alors c'est bien vraiment pour les articles inspirants, voilà, parce que forcément le but de publier sur un site comme Medium, ça va être de faire de faire en sorte d'avoir des recommandations, de faire en sorte que l'article tourne. Alors en France, c'est pas forcément encore un super plan de publier sur Medium parce qu'il y a une petite communauté n'est pas encore assez grosse, mais j'espère qu'elle va se développer. Aux États-Unis, ça vaut largement le coup. Et d'ailleurs, aux États-Unis, tu as beaucoup de marketeurs qui publient sur Medium et tu as aussi beaucoup de personnalités, c'est ça qui fait le succès du service, qui publient sur Medium. Par exemple, une star ou un patron, il y a beaucoup de patrons d'entreprises qui publient sur Medium. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément envie de s'embêter à créer leur blog. En même temps, ils ont envie de communiquer de manière un peu plus développée que sur Twitter. Et donc, d'ailleurs, je crois que Medium a plus ou moins, enfin, Twitter a plus ou moins des parts dans Medium, donc les deux sont assez liés. Et donc, du coup, ces mecs-là publient sur Medium. Et donc, ça fait de Medium un service qui est, voilà, où c'est assez facile de faire des articles qui deviennent viraux ou viraux, comme sur YouTube, finalement, comme une vidéo sur YouTube. Et donc, ça ajoute cet aspect viral à l'article, alors qu'aujourd'hui, on l'avait pas sur les articles. On l'avait que sur les vidéos grâce à YouTube. Sur les articles, c'était quand même très difficile de faire des articles viraux. Et donc, aux États-Unis, c'est développé. Et en France, pas tellement, mais j'espère que ça va se développer. Et donc, à propos de ces plateformes, en fait, c'est la vraie différence entre les plateformes et un article de blog que tu vas marquer sur, enfin que tu vas faire sur ton propre blog, sur ta plateforme propriétaire, c'est que ton article de blog, l'avantage, c'est qu'il va être bien référencé, il va être mieux référencé sur Google, donc c'est vraiment un bon plan si tu veux faire du long terme, si tu veux publier régulièrement pour que ton blog grossisse et que voilà, il gagne du trafic grâce à Google. Mais à côté, la plateforme, c'est un bon plan si tu veux faire du trafic rapide, si tu veux faire une sorte de buzz rapidement grâce à un article inspirant. Alors moi, ce que je conseillerais, si on veut avoir une stratégie multicanal, donc voilà, utiliser à la fois sa propre plateforme, son blog WordPress et publier aussi sur Medium, ce que je conseillerais, c'est faire ces articles utiles du style tutoriel ou tous les articles en comment faire ci avec ça, tout ça, le genre d'articles en fait qui répondent à des questions que les gens posent sur Google typiquement, j'ai conseillé de le faire sur son propre blog parce que c'est des articles qui vont être référencés. Et par contre, tous ces articles inspirants qu'on écrit un peu sous le coup de l'émotion, tu vois, des articles qui vont susciter l'émotion chez les gens mais qui sont pas forcément des articles tutoriels, qui vont pas être, enfin qui a aucune raison d'être recherché sur Google, donc qui a aucune raison d'être bien référencé, ceux-là de les faire sur Medium parce que y a l'aspect viral de Medium qui va jouer. Donc voilà, article tutoriel sur WordPress, article inspirant sur Medium. C'est un peu là-dessus que j'essaye de jouer en ce moment. Mais bon, encore une fois, Medium c'est pas encore suffisamment développé en France, donc c'est pas forcément super rentable aujourd'hui de publier sur Medium. Mais ça va venir.
Ça marche, vraiment intéressant parce que moi je vois beaucoup de, moi je suis beaucoup de start-upers américains sur Twitter, etc. C'est des gars qui publient énormément sur Medium. Un gars que je suis avec très très grande attention, qui est Gary Vaynerchuk, s'est mis à publier il y a quelques mois sur Medium, etc. Et tu vois beaucoup de gens expérimenter avec ces plateformes. Effectivement, c'est drôle hein, parce que longtemps après WordPress, au moment où tu te dis que le blog est installé et que plus personne ne le touchera, il y a des gens qui ont un peu repensé le fait, et en fait ce qu'ils ont lutté, c'est effectivement l'aspect social quoi.
Mais d'ailleurs Medium ne va pas forcément durer parce qu'il y a Facebook aussi qui lance ces espèces de, voilà, aujourd'hui quand on publie ce qu'on appelle une note, avant on pouvait déjà le faire mais c'était un peu pourri, quand tu publies une note sur Facebook aujourd'hui, ça fait un bel article, d'ailleurs ça ressemble beaucoup à Medium la façon de l'écrire, et donc si Facebook se lance aussi là-dessus, ça risque d'être encore plus gros le truc, voilà. Mais encore une fois, c'est de l'instantané, c'est-à-dire que les articles ne seront pas référencés sur Google. Donc ça va être du trafic à court terme, ça peut faire le buzz à court terme, mais ça ne va pas rapporter du trafic à long terme, à mon avis.
Pour terminer avec toi, je voudrais faire trois questions rapides pour boucler cette interview. Donc première question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?
Bah alors, je vais être vraiment très très original.
La semaine de 4 heures.
La semaine de 4 heures. Bravo. Parce que c'est tout bête, hein. Et puis c'est idiot, il est sorti en 2008, mais c'est tout bête, mais c'est le livre, je pense, qui a changé le plus de vie. Déjà, pour moi, je pense que honnêtement, je me serais pas lancé en tant qu'indépendant, et j'aurais pas eu cette soif d'indépendance et de liberté si j'avais pas lu ce bouquin qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et je l'ai lu il y a un bout de temps, j'ai dû lire en 2010, ou enfin peut-être un peu plus tard, 2010 ou 2012, 2012 je pense. Et je l'ai relu depuis, et alors, il est toujours aussi bon, même si tout l'aspect technique, tous les détails qu'il donne dedans sont plus forcément valables. Enfin, le concept en lui-même est toujours aussi bon. Et en fait, ce qui est fou, c'est que même, voilà, tous les gens qui le lisent autour de moi, ça leur fait aussi un choc. J'ai un coworker, j'ai un mec qui bossait avec moi l'année dernière, là, dans l'espace de coworking où je travaillais en alternance. Et ce gars-là était donc salarié, et il était en plein changement de vie. Il était ingénieur du son et il se convertissait. Maintenant, il bossait sur le web en tant que développeur. Et je lui ai conseillé ce bouquin parce que voilà, il était en plein changement de vie, il savait pas trop quoi faire. Je lui ai conseillé ce bouquin, il l'a lu. Et deux mois plus tard, il est parti s'installer à Barcelone et il bosse en télétravail maintenant. Et c'est en grosse partie grâce à ce bouquin. Je me dis, c'est dingue à quel point ce bouquin, le pouvoir de changer des vies. Donc encore une fois, je le recommanderais pour les gens qui sont intéressés, voilà, par penser différemment, par avoir une nouvelle vision de, voilà, de la vie, de l'indépendance. Enfin, c'est un livre vraiment passionnant. Mais bon, ça, je pense que beaucoup de gens en ont déjà parlé avant moi, donc, et beaucoup de gens l'ont déjà lu, surtout, donc ça sert à rien d'en faire trop la promo. Si je peux donner juste un autre exemple de livre que je viens de, enfin, que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps, qui va pas changer votre vie, mais qui va vraiment changer votre vision du business. Si vous apprêtez à lancer une petite startup, je vous conseille vraiment de le lire. Moi, j'ai adoré. Il s'appelle Growth Hacker Marketing. C'est un livre de Ryan Holiday, qui est un, voilà, bah, tu dois connaître, hein. Donc, marketeur américain.
Comme toujours, le lien sera dans la description. Donc, qu'est-ce que t'as tiré de celui-là?
Celui-là, en fait, il explique que le marketing a changé, c'est-à-dire que toutes les boîtes, alors lui en plus s'y connaît parce qu'il était, je crois qu'il était directeur marketing chez American Apparel, et donc toutes les boîtes en fait traditionnelles qui font du marketing en faisant de la publicité télé, publicité campagne d'affichage, ou qui se font sponsoriser par des acteurs ou je sais pas quoi, il dit que ça marche plus et qu'aujourd'hui, voilà, tu regardes les dernières boîtes, les dernières pépites qui ont vraiment explosé, les Uber, les Dropbox, les Facebook, enfin tous ces machins, tous ces boîtes d'internet qui ont explosé très vite, on remarque qu'elles avaient au départ un très faible budget marketing et qu'elles ont trouvé une sorte de hack, qu'elles ont trouvé une combine pour réussir à se développer d'une manière exponentielle extrêmement rapide, sans argent et sans utiliser les méthodes traditionnelles. Et il donne plein d'exemples et c'est fascinant de voir comment faire, comment avoir une croissance très rapide, comment faire en sorte tous les systèmes de parrainage pour avoir plus d'inscrits, plus de gens qui s'inscrivent au service, plus de clients. C'est super intéressant comme bouquin, ça donne une vision très différente du marketing que celle qu'on peut avoir au niveau traditionnel. Et d'ailleurs, j'ai fait récemment un article dessus sur mon blog qui donne trois exemples d'entreprises justement basées sur ce livre qui ont réussi. Et moi, je trouve ça passionnant. Donc, Growth Hacker Marketing.
Est-ce que tu as lu ses autres bouquins, Ryan Holiday?
Non, alors j'ai acheté... je viens de le découvrir justement. Donc, j'ai acheté... ça fait pas très longtemps que je lis en anglais. Ça a vraiment tout changé. Hein, on apprend vraiment plein de trucs. J'ai acheté aussi Trust Me, I'm Lying. Il paraît qu'il est génial.
Trust Me, I'm Lying. Que je te recommande très chaudement. Moi, c'est mon préféré. Celui-là est incroyable.
Ah ouais? Bon, bah écoute, il est sur ma reading list, c'est le prochain.
Ouais, celui-là est hallucinant. Donc, essentiellement, celui-ci, pour vous expliquer, c'est une vision assez cynique des médias de la part d'un gars qui a passé plusieurs années de sa vie à manipuler les médias pour atteindre ses fins. Et il t'explique comment est-ce que il manipule les médias, il leur envoie des fausses informations leakées, il crée des fausses publicités, il crée des fausses manifestations, etc. pour manipuler les médias parce qu'il dit, les médias aujourd'hui, ils ont une seule chose, c'est qu'ils ont soif d'histoire. Et si tu leur donnes les bonnes histoires, si tu parles au mec et tu lui balances les choses comme il a envie de les voir, il ira pas voir plus loin et il ira pas forcément checker les sources, etc. Et il c'est très drôle. On va dire ce qu'ils font avec Tucker Max, ils font tout un tas de buzz. Par exemple, Tucker Max, c'est un auteur très controversiel aux États-Unis. Et en gros, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils organisaient un événement avec Tucker Max dans une université qui était connue pour être opposée à lui, de façon à ce que les groupes locaux, en particulier les féministes, fasse une manif devant Tucker Max et que Ryan Holiday puisse prendre trois photos de la manif et dire « Oh, scandale à l'université XY » et grosso modo créer la news en créant de la news négative. Mais pour eux, voilà, c'était de l'exposition, quoi. C'est comme, ils avaient un budget de film où les mecs lui ont dit « Bon, bah on a fait le film, mais on n'a pas de budget pour le promouvoir. » Et il a fait la promotion comme ça, en ayant du média gratuit. Et voilà, donc le bouquin, effectivement, le premier dont tu as parlé s'appelle « Growth Hacker Marketing » de Ryan Holiday. Le second dont je viens de parler s'appelle Trust Me, I'm Lying. Et je ne vais pas revenir sur son troisième bouquin.
D'ailleurs, Trust Me, I'm Lying est disponible en français, hein, j'ai vu. Donc, s'il y en a qui ne lisent pas l'anglais, il est en français.
Ouais, bonne nouvelle. Et il y a un troisième bouquin que j'adore, qui n'a rien à voir, qui est sur les stoïques, sur la philosophie stoïque, qui s'appelle en anglais The Obstacle is the Way, que j'ai adoré aussi. Bon, c'est moins directement du marketing. En revanche, ça te montre... Enfin, moi, je suis assez fan de tout ce qui est stoïque. Et ce bouquin-là est vraiment intéressant parce que c'est vraiment, tu vois, une vision très moderne d'une philosophie très ancienne. Parce que Ryan Holiday, on peut lui reprocher des choses, on peut pas lui reprocher de ne pas être un homme de son époque.
Ah oui, c'est sûr. Et c'est de Ryan Holiday aussi, The Obstacle is the Way.
Ouais, c'est, okay. Ouais, il a ces trois bouquins, c'est Growth Hacker Marketing, Trust Me, I'm Lying et The Obstacle is the Way. Que voilà, si t'es intéressé par la philosophie, moi je te recommande, je peux recommander à tous ceux qui nous écoutent.
Ah ouais, à fond. Bah, ouais. Moi, ça me passionne. Les trois thèmes me passionnent, là. Donc, je vais lire les deux autres, c'est sûr.
Moi, celui-là m'a beaucoup marqué. Moi, je l'ai lu peut-être... Je l'ai lu quand il est sorti. Alors, c'était il y a un an et demi, deux ans. Et encore aujourd'hui, c'est un de ces livres qui reste avec toi. Tu sais où tu y repenses. Tu repenses à telle anecdote qui était racontée dans le bouquin, etc. Je veux continuer sur mes questions éclairs. Donc, deuxième question pour toi. Si tu pouvais aller dans le futur et parler à ton toi-même de 40 ans, qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise? Qu'est-ce que tu voudrais voir dans le futur?
Voilà, tu m'avais pas du tout présenté la question comme ça.
parce que effectivement. Donc alors je vais être transparent avec les auditeurs. Donc effectivement, je t'ai envoyé mes questions éclairs habituelles. Ou en fait, dans mes questions éclairs normales, je parle à des gens qui sont généralement plus âgés. Donc je leur dis, si tu pouvais revenir à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ton toi-même de 20 ans? Effectivement, pour toi, ça n'a absolument aucun sens comme question parce que c'était il y a un an. Donc du coup, je t'ai en direct live, tu vois, comme un excellent podcasteur que je suis, en direct live, j'ai adapté la question pour te dire, dans 20 ans dans le futur, que ferais-tu? J'espère qu'en expliquant mon truc, est-ce que tu as une réponse qui te vient à cette question, sachant que tu n'as pas pu la préparer? Ou est-ce que tu veux que je passe à la question suivante?
Non, je sais pas. À 40 ans, à 40 ans, j'espère que j'aurai atteint mon idéal, qui est d'être indépendant. Enfin, on n'est jamais totalement indépendant, mais d'être le plus indépendant possible, d'avoir la vie que j'ai choisi d'avoir, même si j'ai fait des conneries, même si j'ai fait des erreurs, être responsable de ça et être toujours capable de pouvoir changer quand ça va pas. Être toujours aussi flexible que je suis aujourd'hui. En fait, moi, si tu veux, il y a des tas de gens qui me... Enfin, il y a des tas de gens, non. Il y a trois personnes qui m'ont dit, voilà, t'as de la chance d'avoir découvert tout ça, l'entrepreneuriat, le marketing et tout, si jeune. Comme si, pour eux, c'était trop tard, tu vois. Mais moi j'espère que, voilà, à 40 ans, je serai encore capable de totalement changer d'idée. D'ailleurs, je suis pas sûr du tout que je ferai la même chose toute ma vie, que Masterblog, ça va durer et tout. J'espère bien que je pourrai totalement changer de voie ou changer de pays ou être toujours aussi flexible à 40 ans. Voilà, si je peux répondre rapidement à ta question, j'espère que ce sera comme ça. Ensuite, je peux pas me donner de conseils dans le futur, c'est compliqué quand même.
Ouais, c'est une belle réponse, hein. Et ça revient à ce dont on a parlé au début de cette interview sur la question de la flexibilité, de la possibilité à rebondir,
ouais,
etc.
Ouais, ouais. Ouais.
Donc pour terminer ensemble, dernière question. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit?
Ouais, alors celle-là j'ai préparé, mais je connais. Je vais t'en donner deux. Allez, deux plus un peut-être. Chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de vous arrêter et de réfléchir. C'est Mark Twain qui dit ça, et c'est un peu toute ma façon de penser dans la vie. J'ai un peu toujours peur de suivre le troupeau, de faire un peu le mouton. Donc souvent, je réfléchis à me dire comment je pourrais changer ça. Et pas seulement suivre ce que fait tout le monde. C'est un peu l'histoire avec les études, suivre sans se poser de questions. Moi, j'ai plutôt tendance à trop me poser de questions. Donc c'est un peu ce qui guide ça. Deuxième citation. Il n'y a qu'un succès, c'est un peu la même chose en fait, il n'y a qu'un succès, être en mesure de vivre votre vie à votre façon, Christopher Morley. Ce qui veut dire que voilà, c'est facile de mesurer le succès en termes de chiffre d'affaires, en termes de reconnaissance, en termes de plein de choses, mais finalement le vrai succès c'est d'être capable de vivre la vie à votre façon. C'est pour ça que je critique absolument pas les gens qui n'ont pas les mêmes choix de vie que moi, qui n'ont pas les mêmes ambitions que moi, parce que je me dis voilà, tant qu'ils sont heureux, tant que c'est ce qu'ils ont envie de faire, c'est qu'ils ont connu le succès. Le mec qui a envie de s'enfermer dans sa cabane en Alaska pour chasser l'ours, c'est un succès s'il fait ce qu'il a envie de faire, tu vois. Et donc ça, moi, je trouve ça important. Et puis voilà, ça évite d'avoir à tout le temps à se comparer en termes de chiffre d'affaires, tout ça, parce que c'est pas ça qui est vraiment important, tu vois. Et troisième citation, c'est pas une citation. Alors, je vais peut-être un peu passer pour un connard en disant ça, mais c'est pas grave. C'est un conseil que m'a beaucoup dit mon père quand j'étais petit et qui, je pense, peut être très utile. C'est il vaut mieux être le plus nul d'un groupe de bons qu'être le meilleur d'un groupe de nuls. Ça veut dire, en gros, voilà, concrètement, si tu t'inscris à un groupe d'escalade, ben, vaut mieux surestimer un peu ce que tu vas faire, te mettre dans le groupe des forts et galérer un peu, être un peu à la traîne, être un peu derrière, galérer, mais vraiment te challenger. Et en fait, ça va tirer vers le haut, plutôt qu'être le leader, le meilleur d'un groupe de gens moins bons et d'être tout devant. Et finalement, ces gens vont plutôt te rabaisser. Donc j'essaye de m'entourer et de rencontrer en tout cas des gens qui m'inspirent, des gens que je considère au-dessus de moi, ou en tout cas qui je considère plus avancés que moi. Et ça m'inspire beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, et ça me permet, je pense, de progresser. Donc c'est aussi un conseil que je donnerais aux gens s'il faut donner un conseil. Voilà.
Ça marche. Du coup, pour terminer, où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ce que tu fais ?
Alors, tout simplement sur mon blog, masterblog.fr. Il y a quelques articles, les derniers articles, ils sont très récents, donc ça devrait les intéresser. Et puis sinon, je communique beaucoup sur ma page Facebook. En ce moment, plusieurs posts par jour, du contenu inédit. Donc n'hésitez pas, sur Facebook, tapez Masterblog, vous allez me trouver facilement. Et puis n'hésitez pas à me suivre, voilà.
Je te remercie Antoine d'avoir été avec nous, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi de tout ça. Et puis je te souhaite à bientôt.
Bah, moi aussi, merci beaucoup Stan, à une prochaine.
Et donc c'est la fin de cet épisode du podcast Marketing Mania. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez me filer un coup de main, rendez-vous à l'adresse marketingmania.fr/podcast et vous trouverez les instructions pour me laisser une évaluation à 5 étoiles sur iTunes. Il faut savoir que pour un nouveau podcast comme celui-ci, les évaluations sur iTunes sont le principal moyen qui va me permettre de monter dans les rankings d'iTunes, d'être mis en face de plus de gens que le podcast pourrait intéresser. Alors, si vous voulez me filer ce coup de main, en retour, voilà ce que je vais faire pour vous. Envoyez-moi le lien vers votre évaluation sur iTunes. Et en retour, je vous enverrai une critique vidéo de la page de votre choix. Envoyez-moi n'importe quelle page de votre site et je vous enverrai une critique détaillée du point de vue de la conversion. C'est l'occasion, si vous avez quelques pages sur lesquelles vous aimeriez bien avoir un regard extérieur, quelques pages qui ne convertissent pas aussi bien que vous le voudriez et que vous avez envie d'avoir quelqu'un qui a l'habitude d'optimiser les conversions pour que je puisse vous donner un avis, des pistes sur quoi tester, etc. Par contre, attention, évidemment, vous vous doutez que cette offre prend pas mal de temps de ma part, donc elle est limitée aux 10 premières personnes qui me laisseront une évaluation sur iTunes. À ce stade, on a déjà 7 évaluations, c'est-à-dire que les 3 prochaines personnes qui pourront laisser une évaluation et qui me demanderont leur critique vidéo seront les dernières qui peuvent l'obtenir. Si vous décidez de me laisser l'évaluation, je vous en remercie et ça me fera un plaisir de vous laisser la critique. Sinon, il n'y a pas de souci. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain épisode. Moi, en tout cas, je serai là mardi prochain à la même heure sur le podcast Marketing Mania pour discuter une nouvelle fois de comment faire du meilleur marketing, un marketing qui convertit plus efficacement. Je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.